Bonjour à tous, bienvenue au culte de l'épi. Je vous invite à rester debout. On va démarrer ce culte, on va rentrer dans les parvis du Seigneur, si vous êtes d'accord, parce qu'il a encore des merveilles à nous partager ce matin. On va le faire en chanson, je viens dans ta maison, je viens pour le rencontrer, pour te rencontrer Seigneur, si vous êtes d'accord. On y va, c'est parti! Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. À l'heure que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je te vois, je t'entends auprès de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je viens dans ta maison, je veux te rencontrer
tel que nous sommes,
tel que je suis.
On s'abandonne à lui.
Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois,
je te vois,
je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur nous.
Je te vois, on va le reprendre.
Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi.
Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
Déclarons-le, le Seigneur est Dieu Tout-Puissant.
Le Seigneur Mon Dieu est puissant.
Oui, Seigneur, tu es Dieu tout-puissant. Dieu est puissant. Tous ensemble.
Dieu est puissant. Il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs. Il a fait
Seigneur Jésus, merci pour ta grandeur, ta puissance. Tu es élevé, nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, Seigneur, ce matin. Et nous voulons t'honorer parce que tu es celui qui fait, qui agit dans nos vies encore aujourd'hui. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Et nous voulons chanter le prochain chant pour toi encore. Parce que tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui agit et qui nous offre encore des miracles, qui intervient dans nos vies encore aujourd'hui.
Le Dieu qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles, tous ensemble. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles.
Oui, je
Au Seigneur Jésus, il est là pour donner, il est là pour parler. Je vous invite à vous exprimer dans la prière ce matin et à vous positionner par rapport à « Oui, je crois en toi ». Croyez-vous qu'il est le Dieu des miracles? Croyez-vous qu'il a encore à donner aujourd'hui? Croyez-le, croyez-le. Je vous invite vraiment à proclamer « Oui, je crois en toi ». Tu es le Dieu des miracles. Il veut vous renouveler, il veut vous parler ce matin. Il a une parole pour chacun d'entre nous. Il a beaucoup de choses. Sa table est ouverte et il y a d'abondance de choses sur la table, des fruits que nous pouvons saisir. Alors je vous invite à prier, à vous remettre à lui, à déclarer « Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. » Reprenons-le ensemble. « Oui, je crois. » Tout doucement.
« Oui, je crois en toi. »
Vous pouvez vous exprimer. Allez-y. Oui, je crois, Seigneur Jésus. Je crois que tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois que tu vas ouvrir une porte, celle que je ne vois pas encore, pour ma vie, car j'ai besoin de réponses. Je ne vois pas clair dans ma vie, mais je crois que tu vas ouvrir une porte. Seigneur, agis. Seigneur, viens ouvrir la porte.
Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles.
Demain. Et ce que tu peux donner, ce que tu donnes hier, tu le donnes et tu le renouvelles.
Tu t'es enfui de ton pays. Et Dieu t'a conduit ici, en France. Ici, tu as pu fonder un foyer. Tu t'es établi. Et tu es bien. Mais tu vois la souffrance de ta nation. Tu vois les besoins. Surtout le besoin de l'évangile dans ta nation. Et tu sens au fond de toi que Dieu te demande « Que feras-tu pour ton peuple ?» Et tu as peur. Parce que si tu t'es enfui de ton pays, c'était parce que ta vie était menacée. Et ce matin, le Seigneur t'encourage. Il te dit, si tu marches dans mes voies, si tu obéis à ce que tu ressens au fond de toi, je serai avec toi. Si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, il ne te brûlera pas. Ta vie est davantage en sécurité dans ton pays qu'ici, en France. Considère l'appel que tu ressens au fond de ton cœur. La compagne que Dieu t'a donnée elle te suivra. Elle ressent la même chose que toi. N'aie pas peur. Prépare-toi, forme-toi et va annoncer l'évangile à ton peuple. Il en a tant besoin. Amen.
La foi, c'est un voyage. Et on veut prendre le temps d'écouter ce que Dieu a mis sur le cœur de notre frère Klaus ce matin. La foi, c'est pas... Dieu ne nous promet pas au travers de la foi un voyage tranquille, mais un voyage sûr. Il ne promet pas que tout sera facile, mais il nous promet d'amener de l'autre bord. Et je crois qu'on peut vraiment saisir ces paroles. Ça peut parler à l'un, mais ça peut parler à l'autre, ou comment Dieu vient parfois nous challenger sur nos peurs, nos craintes. Et je crois vraiment que Dieu nous appelle à un voyage de confiance ce matin. Et est-ce qu'on peut reprendre ce chant comme une prière, là ? Je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Le miracle prend place lorsqu'on sort en dehors de notre zone de confort. Et peut-être que Dieu te challenge ce matin à sortir de ta zone. Si c'est ton cas, simplement chante-le comme une prière ce matin. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, tu vas me sortir de mes zones de confort. Mais je sais que je vais pouvoir voyager en sûreté parce que tu es avec moi. Même s'il y a des turbulences, tu seras avec moi. Que ça puisse être ta prière ce matin dans ce lieu alors que tu proclames « Oui, je crois en toi ».
De ton amour.
Merci Seigneur parce que tu es ton esprit nous remplit.
Ce matin en signe au ciel pour dire Seigneur j'ai tellement besoin d'être rempli, j'ai tellement besoin d'être renouvelé. Oui le Seigneur veut déverser encore sa vie sur son peuple. On a tellement besoin. Jésus avant le désert a été conduit par le Saint-Esprit. Après le désert il a été rempli. On ne peut pas se satisfaire d'une seule fois. On a besoin en tant que peuple de Dieu de venir puiser au torrent de ses délices. Il veut déverser son cœur, il veut déverser sa vie, il veut nous remplir encore ce matin. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble encore pour demander à Dieu de nous remplir? On veut être l'église qui bat selon son cœur, qui s'aligne sur les temps de Dieu pour notre génération, pour notre ville, pour notre département. Seigneur, sers-toi de nous, on a tellement besoin de toi. Viens nous remplir tout à nouveau. Seigneur, peut-être on a été découragé le long du chemin, on est peut-être sec ce matin. Tu veux déverser encore de fraîches ondées, je le crois, sur ton peuple. Alors qu'on est là devant toi, Seigneur, pour te dire, viens et remplis-nous encore, Seigneur. On a tellement besoin encore de ta vie. Merci de ce que tu nous as promis d'être avec nous, Seigneur. Et tu as promis que tu ne refuserais pas ce qu'on te demanderait, Seigneur. Alors viens, s'il te plaît, encore et remplis-nous de toi. On veut être encore alignés sur ton cœur ce matin, Jésus. Oh, souffle encore dans ce lieu, Père. Souffle, Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, tu as promis qu'il parlerait de nouvelles langues, nous croyons. Tu as promis que les fils et les filles prophétiseraient. Alléluia, tu donnerais des songes, des visions. Oh Saint-Esprit, sers-toi de ton peuple encore. On a soif de toi ce matin, Seigneur. Viens et remplis-nous. Viens et conduis-nous, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais tu as promis d'être à nos côtés. Oh Seigneur, sers-toi de nous encore ce matin. Prie alors que les ténèbres sont en train de s'épaissir. Aide-nous à être des porteurs de lumière, des porteurs de ta paix, celle qui fait la différence dans les vies encore aujourd'hui. Souffle sur ton peuple, souffle sur ton église, souffle sur les pipères, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci Seigneur parce que tu changes les cœurs. Tu transformes, tu nous transformes dans ta présence. Vous êtes d'accord, on va encore chanter un chant. Il est exalté, on va l'exalter.
Le roi est au-dessus des cieux. Et avant juste un temps d'annonce, j'aimerais juste que vous releviez un petit peu. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour la paix dans notre monde. On pense bien sûr à Jérusalem, Israël, le conflit avec la Palestine, mais on pense aussi à nos frères russes et nos frères ukrainiens, à nos frères azerbaïdjanais et nos frères d'Arménie. J'ai vraiment des bugs de cerveau, moi. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre un temps pour la paix. On a été appelés à être des artisans de paix. Que Dieu puisse se servir de nos frères et sœurs qui, eux, sont là-bas sur place pour être aussi la lumière. Alors, est-ce qu'on peut prier pour la paix, s'il vous plaît, ce matin? Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Ma maison sera appelée une maison de prière, nous dit le prophète Ésaïe. Qu'on puisse élever la voix pour la paix ce matin. Seigneur Jésus, on te prie pour toutes les victimes de la guerre, Seigneur. Toutes ces victimes, ces familles qui ne demandent rien à personne, mais qui sont victimes de conflits qui les dépassent. Père éternel, on te prie, Seigneur, pour que tu puisses venir les rencontrer, les toucher, Seigneur. On te prie pour l'Église vivante qui est présente par toutes les nations, Seigneur. On te prie pour nos frères et sœurs en particulier. Seigneur, qu'au-delà de la souffrance, des difficultés, puissent être des canaux de ta paix, de la réconciliation et de la bénédiction, Seigneur. On te prie pour les dirigeants, Seigneur, et tous les aspects politiques pour que la paix revienne. Mais nous croyons, Seigneur, qu'une paix durable ne peut venir que par notre Sauveur. Alors on te prie pour une manifestation
manifestation, une œuvre de ton esprit au travers de nos frères et nos sœurs là-bas. Je te prie pour l'Arménie, pour l'Azerbaïdjan, on te prie pour la Russie, l'Ukraine, on te prie pour Israël, on te prie pour le peuple palestinien, mais on te prie pour d'autres conflits dont on a même pas à l'esprit, Seigneur, ce matin. Vraiment, remplis nos frères et nos sœurs de ta paix, de ta force, de ta grâce, de ta puissance, Père éternel, pour faire face, pour résister aux pièges de l'ennemi qui chercherait à les déstabiliser, mais pour être aussi des canaux de ta bénédiction pour les gens qui sont autour d'eux. Merci Seigneur encore de souffler sur notre monde, il a tellement besoin de toi, Jésus. Manifeste ta grâce, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est important de prier et dans cette optique, on voudrait vous reparler que le jeûne et prière de l'épi approche du lundi 6 au vendredi 10. On veut se tenir ensemble, unis pour certains sujets. Vous connaissez ce passage qui nous dit qu'il y a certaines choses qui partent que par le jeûne et la prière. Non pas que le jeûne et la prière soient un bras de fer avec Dieu, mais c'est un temps qu'on prend à part pour prendre le temps d'écouter Dieu. Donc vraiment, si que vous viviez des besoins d'ordre personnel, mais on veut vivre aussi de manière collective avec nos défis, puis ce qui se passe dans le monde, on vous invite vraiment à consacrer peut-être une soirée pour ceux qui ne peuvent pas être disponibles tout le temps, une soirée, deux soirées, trois soirées, en tout cas, chaque soirée de 19h30 à 21h, nous aurons un temps de jeûne et de prière où on se laissera encourager à être rempli de l'esprit, mais aussi prier pour les différentes situations, donc du 6 au 10, et on clôturera ce temps de jeûne et prière par une soirée aussi de vie de l'esprit, de louange, avec toute l'équipe qui est en train de se préparer pour nous faire vivre un samedi soir aussi dans la louange, dans la prière, où on veut aussi pouvoir être au bénéfice et vivre les dons spirituels. Donc voilà les annonces. Maintenant, je vais inviter Abigail, Firas et Aude, qui doivent être quelque part par là. Firas, Aude, Abigail. Non, je ne les vois pas. Si, si, je le vois. Oui, il va chercher la... Oui, vas-y, vas-y. Je vais inviter Michel à s'approcher déjà pour nous expliquer ce que c'est qu'une présentation d'enfant. Le temps que les parents arrivent, on va présenter un enfant au Seigneur ce matin. Et puis vous savez qu'on ne baptise pas les enfants. Et on va vous expliquer comment ça fonctionne dans nos milieux.
On a emboîté le pas à la parole lorsque Jésus a été présenté. Et les chrétiens évangéliques se sont dit, bien, c'est une bonne chose de ne pas baptiser les enfants, mais plutôt de les présenter au Seigneur, de prier, de faire prier l'Église aussi pour l'avenir d'un enfant. Donc on ne baptise pas les enfants, mais on les présente au Seigneur en demandant à Dieu de bénir les parents, de les instruire, de les accompagner dans l'éducation. Et l'Église est partie prenante dans cette action, puisque à un moment ou à un autre, il y a bien sûr la nurserie, la garderie, mais il y a aussi l'école du dimanche. L'Église s'investit pour instruire les enfants. Et puis, dans l'espoir que plus tard, ces enfants puissent aussi choisir la foi de manière libre et volontaire et connaître ce Dieu que nous connaissons. Donc c'est la famille Lamy et Schust. Et nous prions pour Abigail. Elle est née le 31 août de l'année dernière, c'est ça, 2022. Et on est heureux de vous accompagner dans ce temps de prière en demandant au Seigneur sa grâce sur vos vies. Le psaume 139 montre que avant même que notre vie soit donnée, tout en étant encore dans le ventre de la maman, le Seigneur a déjà inscrit sur son livre le nombre de jours qui sont destinés et lui seul connaît l'avenir. Donc, je vous invite à vous lever à votre place. C'est un moment important, un moment solennel. Dieu seul sait l'avenir de cet enfant et nous voulons confier cet enfant avec ses parents et toute la famille au Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous avons chanté que tu es le Dieu des miracles et c'est vrai que c'est chaque fois un miracle que tu donnes. Nous prions pour Abigail. Nous prions pour sa jeune vie, nous prions pour son avenir que tu connais. Nous te la remettons, prions qu'elle devienne comme cette Abigail de la Bible qui a éloigné d'elle toutes sortes de difficultés, d'épreuves, de soucis, de souffrances. Eh bien, qu'elle soit aussi artisane de paix, qu'elle devienne en ton nom aussi un instrument pour répandre la paix de Dieu au nom de Jésus. Nous prions pour toute la famille, nous prions pour de la sagesse, de l'inspiration et aussi tout ce qu'il faudra pour accompagner l'éducation de ses enfants. Merci pour ta fidélité, ta bonté et merci Seigneur de te manifester. Et toute l'Église se joint à moi et te dit Amen. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, maintenant on va inviter Anne à s'approcher pour écouter ce que Dieu a mis sur son cœur. Vous savez qu'on est dans cette dynamique sur vive les dons spirituels aujourd'hui. Et on veut écouter ce matin la voix par excellence.
Bonjour à tous, vous allez bien ? Voilà, vous allez bien ?
Oui.
J'étais absente quelque temps, veuillez m'excuser, j'ai pris un peu des vacances. Ça fait du bien. Alors comme l'a dit Raymond Pierre, on fait une série. Et cette série, c'est « Vivre les dons du Saint-Esprit aujourd'hui ». Mathieu a apporté début octobre les 4 boosters pour vivre les dons de l'Esprit. Adopter une mentalité de grâce, d'unité, d'ouverture, d'interdépendance et de coopération. Et Jérôme a parlé d'aspirer aux dons les meilleurs. Que sont réellement les dons spirituels ? Pourquoi ? Quoi ? Et comment les recevoir ? Et aujourd'hui, on va parler de 1 Corinthiens 13. Vous connaissez ? 1 Corinthiens 13. Là, a un objectif particulier. Paul, là, veut justement montrer la voie par excellence pour exprimer les dons spirituels. Et on le voit que dans le chapitre 12, il parle de justement tous ces dons spirituels. Et le chapitre 14, le don des prophéties des langues, donc Raymond Pierre nous parlera la semaine prochaine. Et au milieu, entre deux, il y a 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce que nous cache 1 Corinthiens 13 ? On voit que les 13 versets, il y a un schéma qui se dessine naturellement. Et dans ce schéma, au départ, nous réalisons que sans l'amour, on n'est rien. Ça ne sert à rien. Quand on continue la lecture, nous apprenons ce qu'est l'amour et ce que n'est pas l'amour. Pour enfin comprendre que l'amour est éternel. L'amour durera toujours. Et c'est ce que nous allons voir là ce matin directement. Et avant de commencer dans le vif du sujet, je vais juste faire un petit rappel. L'église de Corinthe était composée d'une grande majorité de personnes qui ne connaissaient pas Dieu et qui se sont converties, et d'une petite partie de personnes de culture juive qui se sont converties à Jésus-Christ. Et du coup, ça faisait un mélange culturel, comme nous ce matin. J'aime bien le mélange culturel. Amen. Amen. Et nous sommes tous, comme les Corinthiens, ils sont tous aussi de différentes classes sociales. Okay, et c'est dans ce contexte que Paul parle de 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, on va lire des versets 1 à 3. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Et Paul commence ce chapitre par « si ». « Si » exprime une condition, une hypothèse. Paul, là, est en train de se montrer comme exemple, de se citer comme exemple pour essayer d'expliquer aux Corinthiens là où il veut les amener, ce qu'il veut leur faire comprendre. L'église de Corinthe était vraiment bénie en dons. 1 Corinthiens 7, 1 le dit « de sorte qu'il ne vous manque aucun don ». Et en plus du fait qu'il ne leur manquait aucun don, ils avaient respecté la doctrine. Il écrit dans 1 Corinthiens 11, 2, Paul dit « Je vous félicite de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. » Et on pourrait se dire « Waouh, elle est parfaite l'église de Corinthiens, oh. Ça y est, on l'a trouvée, l'église parfaite. Ils ont tous les dons qu'il faut, ils ont respecté la doctrine. » Mais, il y a un « mais », qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette église, entre les Corinthiens, il y a eu de la jalousie, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu de l'égoïsme, il y a eu des clans. Et je me suis un peu imaginée, j'étais fière de leurs dons, les Corinthiens montent sur leurs grands chevaux et ils disent « Waouh, moi regarde, j'ai le don de prophétie, waouh, j'ai le don des langues !» J'arrive à peine à traduire l'anglais, je parle à peine bien le français, non je parle bien le français quand même, mais... Et se dire, même s'imaginer se retrouver devant Dieu, quand Dieu, à un moment donné, on va se retrouver devant Dieu et dire, et que Dieu leur dit, mais entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la maison de ton maître. Et tant ils s'imaginaient ça. Et là, Paul vient avec un Corinthien, leur dit, non, c'est ok, vous avez les dons. Ok, c'est bien. Mais il y a quelque chose qui manque. Il vient leur annoncer une réalité frappante. Paul est en train de leur dire qu'ils peuvent tout avoir. Tout. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas l'amour, ils ne sont rien. Moi, je trouve ça quand même fort. T'arrives tout content. Il est même dit qu'on est comme une cymbale qui résonne. Alors, on va faire un petit test. Je sais que les internautes, vous pouvez baisser le son, mais s'il vous plaît, gardez le son. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas m'aimer après ça, mais je prêche sur l'amour, alors... Vas-y, fais-toi plaisir. Fort. Sérieusement, s'il y avait ma mère là, maman, j'espère que tu baisseras le son, elle dirait, tu peux pas te taper sur la tête, ça fera moins de bruit. Qu'est-ce que je veux dire par là? En donnant cet exemple, merci beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, on est comme une cymbale, c'est-à-dire que le bruit là, et encore, il a fait que quelques secondes, au bout d'un moment, ça agace, ça irrite, ça énerve. Oh, on est tendu. On a juste envie de mettre des boulequettes ou partir et fuir, ça fait pas du bien. Et ça sert à rien, ça fait que du bruit. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Même si je possède les dons des langues et que je n'ai pas l'amour, je fais que du bruit. Je suis comme, pour les musiciens, un xylophone ou un piano avec une note. Vous savez le réveil quand on fait bip, 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 bip. Allez chanter là-dessus tout le temps sur la même note. Ça agace, ça énerve, ça fait du bruit pour rien. Et Paul, là, il cite les dons de l'esprit auxquels les Corinthiens sont vraiment attachés. Les dons de l'esprit qui sont vraiment d'une grande importance aux yeux des Corinthiens. Et Paul insiste, il insiste et il répète pour bien faire comprendre que même si ils avaient tous les dons, le don de langue, la prophétie, la connaissance, le don de donner, comme Matthieu en a parlé dans sa prédication, même avec tout, si deux lettres, si il n'y a pas l'amour, ça ne sert à rien. Mais le plus dur, c'est que Paul dit « je ne sers à rien ». Vous imaginez, vous êtes en train de travailler, de bosser dur, faire des études et tout ça pour acquérir des diplômes. Vous êtes super content, vous avez vos diplômes en poche et tout, vous allez postuler. Et là, on vous dit « ah mais vos diplômes, ça ne sert à rien, vous n'avez pas d'expérience ». Paul ne dit pas que le don n'est rien, mais il dit « je ne suis rien ». C'est-à-dire « je suis inutile, je ne sers à rien ». Paul montre vraiment ce qui l'anime au plus profond de lui-même, cet amour. Il le dit au chapitre 9, quand il parle qu'il s'est fait esclave de tous pour gagner le plus grand nombre possible à Christ. Il les aime, il aime les Corinthiens. Paul n'est pas en train de dire aux Corinthiens « Non mais vous servez à rien, vous êtes nuls, vous valez rien. » Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Mais comme un bon conseiller, rempli d'amour pour son prochain. Il est là face aux Corinthiens et il leur dit « Les dons, c'est un cadeau, c'est une grâce de Dieu. » Le don, c'est ce que Dieu donne quand il veut, où il veut, à qui il veut. Mais que sans l'amour, il manque l'essentiel. Il manque le plus important, il manque ce qui fait la différence. Il manque ce qui impacte, ce qui touche les cœurs. Et le fait qu'il y ait ce manque d'amour, ça a déstabilisé. Alfred Kuhn, un théologien, un professeur, dira « L'amour n'est pas à proprement parler un don. Il est supérieur à tous les dons. Il les contrôle et leur donne leur véritable sens. » Alors, vu que dans la Bible, l'image de l'Église, c'est le corps de Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Ok? On le dit souvent, on le répète, on le re-répète, et on le répétera encore. C'est la vérité. Donc, dans notre corps, on a le cœur, les poumons, les intestins, les yeux, on a tous les organes. Eh bien, disons que tous ces organes, ce sont les dons. Et disons que l'amour, c'est le sang qui circule, le sang qui donne la vie. Si je me fais un garrot, là, si je me presse la main, que je reste comme ça pendant longtemps, longtemps, au bout d'un moment, la tablette, elle va tomber parce que la main ne vit plus et elle ne sert à rien. Vous comprenez cette image de ce qu'est l'amour ? L'amour. Et dans le chapitre 13, Paul parle essentiellement de la vie de l'Église, d'une façon qui doit glorifier Dieu, de la manière dont Dieu nous a aimés, dont Dieu nous aime toujours. L'amour, cet amour, il parle d'un amour agapé, cet amour qui se donne pour les autres, cet amour qui prend l'intérêt de l'autre important. Et entre 1 Corinthiens 13, 1 et 1 Corinthiens 14, 1, il est cité 10 fois, ce qui montre l'importance de cet amour agapé. Paul s'efforce de restructurer l'ordre de priorité de ses valeurs. Et la plus grande des valeurs, que n'importe quel des dons, c'est l'amour. C'est l'amour. Et là, Paul espère, il espère de tout cœur vraiment mettre l'Église sur la voie de la santé spirituelle. Et ce qui faisait justement défaut à l'Église de Corinthe, c'était ce manque d'amour. Ce qui a fait que ça a attiré l'égoïsme, ça a attiré les querelles, l'orgueil. Et ce manque d'amour a accablé l'Église, a accablé les chrétiens. Wayne Grudem, un théologien professeur aux États-Unis, dira « C'est une chose terrible que de vouloir des dons spirituels ou la prééminence dans l'Église pour notre propre gloire et non pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres. » Par conséquent, ceux qui recherchent les dons spirituels doivent d'abord se demander s'ils les recherchent par amour pour les autres et dans le but de pouvoir répondre à leurs besoins, parce que ceux qui ont les dons spirituels les meilleurs, mais n'ont pas l'amour, ne sont rien aux yeux de Dieu. C'est pour ça, pour cela que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 1, « Cherchez avant tout l'amour. » Jérôme en a parlé vers sa fin de prédication, il disait « Il ne faut pas chérir, il ne faut pas aimer les dons plus que les gens, plus que les personnes. » Si l'amour n'est pas un don, alors, qu'est-ce que c'est l'amour ? L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Paul en parle aux Galates et il dit l'amour, le fruit de l'esprit, pardon, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et encore dans ce verset, on voit que l'amour est cité en premier. L'amour est important. Et pour avoir le fruit de l'esprit, ben, il faut être connecté à Dieu, on est d'accord ? Pour avoir le fruit de l'esprit, il faut être en accord avec ce que Dieu dit. Il faut obéir, il faut être là entouré de frères et sœurs, d'où le jeûne et prière. Il faut venir pour être rempli du fruit de l'esprit, pour manifester le fruit de l'esprit. Mais il faut savoir une chose qui est super importante. Des fois, on prend, quand on a quelque chose, on le prend pour acquis. Et là, c'est un processus. Là, c'est quelque chose de toute une vie. Il faut aller à la source pour être rempli de l'esprit et pour pouvoir manifester le fruit de l'esprit. C'est un processus continu et progressif dans nos vies. Et nous voyons bien que les dons de l'esprit sont visibles dans l'église de Corinthe. Mais leur manque d'amour l'est davantage aussi. Et l'élément fondamental qui prouve la maturité spirituelle, ce ne sont pas les dons spirituels, mais c'est l'amour. L'amour est la voie par excellence pour pratiquer, comme il se doit les dons de l'esprit, si je n'ai pas l'amour. Et ce qui nous amène quand même à se dire, ok, qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que n'est pas l'amour ? On lit la suite de 1 Corinthiens 13, le verset 4 à 7. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tout, 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 tout. Et quand j'ai lu, je me suis répété le verset, le tout, tout, tout. Je dis, punaise, non, je vais aller m'asseoir parce que... Non, il espère tout, il croit tout, il pardonne tout. Eh, je suis parfaitement imparfaite, c'est bien ça. Paul ne parle pas du sentiment amoureux. Il parle de l'amour. Le sentiment amoureux est superficiel, fondé et guidé par les sentiments. Il est imprévisible, inconstant, influencé par les hormones. Il se préoccupe de sa propre personne et cherche son avantage. Et quand il ne trouve pas son avantage, ben, il n'y a plus d'amour, il n'existe plus. Le sentiment amoureux n'est plus là, il s'est estompé, il s'est évanoui. Je crois que c'est, oui, c'est en cours de relation d'aide. Quand j'étais à l'école biblique, le professeur nous avait dit l'amour, le sentiment amoureux dure 6 mois à 2 ans. Pour les plus chanceux, ben, pendant 2 ans, ça va bien. Pour les moins chanceux, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien. Ouh, quel courage! Donc ça, c'est le sentiment amoureux, d'accord? Maintenant, l'amour. L'amour est le respect de la personne. L'amour est fondé sur la volonté. L'amour est fiable et constant. Il s'apprend, il s'entraîne, il s'exerce. Il est plus profond et plus fort que les sentiments. Il est global. Il ne se préoccupe pas seulement de l'autre, mais le renforce, le soutient, l'estime en tant que personne à part entière. Et il se demande ce qui est bien pour l'être aimé. Et l'amour, il est divin et illimité. Vous voyez la différence entre le sentiment amoureux et l'amour? Et Paul a structuré ce passage de manière à mettre en évidence la nature complète, désintéressée et positive de l'amour, tout en contrastant avec les attitudes négatives du comportement égoïste. Et cela renforce l'idée que l'amour tel qu'il est écrit ici est un idéal à atteindre et à incarner. C'est tellement beau quand on le lit. Ouh. Et là, Paul, il commence par une affirmation. Et cette formule de l'affirmation, en fait, ça peut être pris comme des verbes. Mais là, Paul personnalise. Ça peut être pris comme des adjectifs qualificatifs. Et là, Paul le personnalise en utilisant des verbes. Des verbes pourquoi ? Des mots d'action qui agissent. Parce que quand on le voit, l'amour est le fait d'être pour quelqu'un. L'amour est une question de comportement. L'amour est une question d'intention et de motivation. L'amour, le vrai. Paul prend plus de temps à définir ce que l'amour n'est pas que ce qu'il est. Et c'est en grande partie par rapport au comportement des Corinthiens, parce qu'ils voient comment ils se comportent. La plupart, peut-être même la totalité des descriptions de l'amour que Paul donne ici, reflètent ses préoccupations qu'il a envers l'Église. Il aime tellement les chrétiens, il aime tellement les Corinthiens, que quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y va, il leur dit avec amour. L'amour est patient. Seigneur, donne-moi la patience, mais fais vite. Fais très vite. La patience dans l'amour, elle nous empêche de réagir de manière irréfléchie, de manière irritable envers la personne qui nous cause des torts, des désagréments. Sizelton, un théologien, prêtre anglais, théologien, traduit le premier verbe « attend patiemment » afin de préserver l'idée de verbe actif du grec. D'où l'importance d'utiliser un verbe actif parce que l'amour est actif. Il estime que l'amour attend patiemment, non seulement parce qu'il traite patiemment l'être aimé, mais aussi parce qu'il reconnaît que le bon moment joue un rôle énorme pour assurer le bien-être de l'autre. Il prend conscience au bon moment d'intervenir. Je vais raconter une petite histoire, petit témoignage. J'ai une amie qui est en couple, ça fait quelques années, et à un moment donné, son mari l'a un petit peu beaucoup irritée, un petit peu beaucoup agacée. Et elle dit, écoute mon chéri, c'est mardi aujourd'hui, on va attendre la fin de la semaine et on se parle vendredi. Et le mari dit, mais non, vas-y chérie, allez, s'il te plaît, non, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'est-ce que j'ai fait, hein. Elle dit, chérie, je suis en colère, et en plus de ça, je suis indisposée. Donc ça n'arrange pas pour que je te parle correctement, avec les bons mots, ça risque de partir entre en bataille et je t'envoie des assiettes dans la tête, donc on va attendre vendredi, le temps que tout se passe calmement, pour rediscuter de ce qui s'est passé. Il a attendu vendredi. Mais le reste s'est bien passé, elle m'a raconté la suite, ils se sont dit les choses dans l'amour et la paix, et vu que la colère était passée, l'amour est patient, l'amour attend le bon moment. L'amour est plein de bonté. L'action de l'amour, là, est de tendre la main. Là, est d'avoir des actions, des actes de compassion, de miséricorde. Et je pense que là, je n'ai pas besoin de détailler, mais quand on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, de porter les fardeaux les uns des autres, quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, quand quelqu'un a besoin de manger, quand quelqu'un a besoin d'une écoute, et l'écoute et prière à la fin du culte. Des actes de bonté. Puis là, Paul, après avoir dit que l'amour est patient et plein de bonté, il part sur 8 comportements négatifs. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice. Et j'insiste encore, hein, ce qui s'est passé à Corinthe, c'est qu'il y avait des chrétiens de différentes classes sociales, un peu comme nous ce matin, c'est comme ça. Et des chrétiens moins bien lotis que d'autres étaient animés, non pas par le désir de l'amour, non pas par cet amour, mais en recherche d'un statut, en vue d'être meilleur, de se montrer, de dire « moi je suis mieux qu'eux, moi j'ai mieux qu'eux ». Et on voit que, on doit être honnête, dans la société actuelle, on est quand même poussé justement à l'individualisme. L'accent est mis sur la réussite personnelle, la reconnaissance individuelle, à poursuivre nos propres intérêts. Et parfois même en poursuivant nos propres intérêts, on est prêt à écraser l'autre, à piétiner l'autre. Tout ce que l'amour n'est pas. Et parfois on a ce comportement, peut-être parce que par les blessures de la vie, l'éducation, la culture, je ne sais pas, simplement par le péché aussi, cherchant l'attention. Hey, oh oh, je suis la meilleure, hein. Je sais pas en quoi, mais je suis la meilleure, hein. Oh oh, moi je regardais, je sais bien faire ça. C'est pas l'amour. Paul continue. L'amour se réjouit de la vérité. Et allez, on va avec la suite des tout. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Ouh, ça peut durer quand même. Il pardonne tout. Il pardonne tout, oui, et il couvre. Ça veut dire qu'il ne rappelle pas à son prochain, il ne rappelle pas qu'il a péché. Ouais, non, mais attends, tu te souviens, moi je te fais... Attends, la dernière fois, tu as fait ça, ok, on ne se parle plus, on ne se voit plus. J'ai vécu une situation comme ça où une personne a rappelé ce que je me suis confiée, j'étais en confiance. J'aurais pas dû. Et à un moment donné, j'avais confié à un moment donné que j'étais dans le péché total et tout. Et puis elle me rappelait à chaque fois ça. Ouais, mais avec ce que t'as fait, faut pas s'étonner, que tu sois comme ça. C'est pas ça, pardonner. Pardonner, c'est ne pas rappeler. Il croit tout. Alors on ne demande pas à être naïf, quand même. Si à un moment donné, on vous dit qu'il y a un éléphant rose qui est en train de voler là-bas, c'est peut-être un ballon gonflé à l'hélium, mais c'est pas le vrai animal. Mais en fait, il croit tout, c'est qu'il garde la foi en Jésus. Garde la foi que Jésus peut intervenir dans des situations compliquées. Il espère tout, c'est la même chose. Il espère que Dieu, que Jésus intervienne dans des situations compliquées. Il supporte tout, supporte toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Vous en avez passé des difficultés, non? Non? Ben, punaise. J'aime bien. Jackie fait... J'ai compris le message. Thomas Schreiner dira « L'amour endure, supporte et tolère beaucoup. Il n'abandonne pas les autres, même quand tout est difficile et que les ressources personnelles sont fortement sollicitées. » Il n'abandonne pas, c'est tellement beau. Et là, quand j'ai préparé le message, l'image qui m'est venue, c'est de mes deux grands-parents paternels. Ils sont décédés trop tôt pour moi. Mon grand-père est parti, j'avais 18 ans, ma grand-mère, j'avais 21 ans. Ils sont tous les deux partis d'un cancer, on les a gardés à la maison jusqu'à la fin. Et dans ces derniers jours, mon grand-père était sur son lit, médicalisé, et il regardait ma grand-mère et lui disait « Marie, elle s'appelait Marie, hein, tu m'aimes toujours même si j'ai le cancer ?» Et la réponse de ma grand-mère, « Bien sûr. » Et là, ils se sont fait un bisou, c'était trop mignon. C'était trop beau. Mais l'amour est là, il supporte tout, il endure tout. Et là, il ne lâche pas dans les moments difficiles. Il est là, il tient bon. Et même si ça coûte, même si ça coûte, tous les attributs mentionnés par Paul sont les caractéristiques de l'amour que Dieu nous porte. Et quand je parle de cet amour-là, de cet amour agapé, de cet amour en action, je ne peux pas ne pas citer ce que Dieu a fait. Et on le voit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné un verbe d'action. Il a donné son Fils unique. Car Dieu nous a tant aimé, il n'a même pas regardé au péché qu'on a fait. Parce qu'on a une sacrée couche quand même. Il a donné son Fils par amour pour nous. Il l'a donné parce qu'il ne voulait pas qu'on soit séparés pour l'éternité. Il ne veut pas qu'on soit séparés pour l'éternité. Il l'a donné parce que c'était bénéfique pour nous. Sincèrement. Lui peut se dire, ben, c'est bon, moi je suis parfait, j'ai fait ce qu'il fallait, ils ne m'ont pas écouté. Ben, voilà. Ça, c'est de l'amour. De l'amour qui lui a coûté. Qui est allé jusqu'à sacrifier, donner son Fils pour nos péchés. Et alors là, on voit vraiment que l'amour ne cherche pas son intérêt, mais cherche l'intérêt de l'autre. Il cherche ce qui est bénéfique à l'autre. Et dans un commentaire de l'Épître aux Corinthiens, il écrit, selon Paul, « L'amour est un effort dynamique et créatif qui consiste à trouver des moyens de rechercher le bien-être des autres plutôt que ses propres intérêts. » J'aime trop ces mots. L'amour est un effort dynamique et créatif. Les artistes, allez-y, exprimez-vous. Créatif. Qui consiste à trouver des moyens de rechercher le bien-être des autres plutôt que ses propres intérêts. Il n'est pas centré sur soi, mais sur les autres. Et cet effort de manifester de l'amour, d'être porté vers le bien des autres, nous amène à vivre la voie par excellence pour exprimer les dons spirituels. Jérôme en parlait encore. Hein. Il le disait, et de toute façon, on va vous répéter, re-répéter. Hein. Mais qu'est-ce que je peux avoir pour l'autre? Et ça, là, ça me fait penser là de suite. Je ne sais pas s'il y a deux ans, enfin, je sais pas. Dans le groupe de jeunesse, on avait fait une soirée gars-filles. Et les gars et les filles étaient en face, et au milieu, il y avait un paperboard, deux, un vers les filles, un vers les gars. Et là, il fallait mettre la liste des critères. Donc les gars devaient mettre les critères de comment ils voyaient leur femme, et les gars et les filles devaient mettre les critères de comment ils voyaient leur gars. C'était super intéressant, les retours. Moi, je la veux grande, mais pas trop, drôle, mais pas plus que moi, je veux qu'elle fasse bien à manger. Et j'étais travaillée au fond de moi. Les filles disaient « Allez, Anne, vas-y, écris quelque chose, écris, écris, écris. » Et moi, j'ai écrit « Je ne veux pas faire de critères parce que je veux me laisser surprendre. » Et au fond de moi, je me suis dit « Mais attends, on dit toujours « Ouais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter ? Qu'est-ce que je peux apporter à l'autre ?» Parce que si on est toujours tourné sur « Ouais, moi, je veux ça, moi, je veux ça, moi, je veux ça, mais oh, c'est normal qu'à un moment donné, ça casse, parce que personne n'est parfait, de toute façon. » Ça m'a fait travailler. L'amour. Et donc, on voit que l'amour est important. Et ça ne s'arrête pas là. Et ce qui est encore merveilleux, c'est notre troisième partie, c'est l'amour est éternel. Paul dit, par la suite, dans 1 Corinthiens 13, 8 à 10, « L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. » Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est parcelle disparaîtra. L'amour a une portée éternelle. Et Paul explique là aux Corinthiens que l'amour en tant que caractéristique divine est permanent. que cet amour-là dure malgré les échecs, malgré nos erreurs aussi. Et que si Dieu nous accorde des dons, c'est pour l'édification de l'Église, c'est pour nous amener à grandir, c'est pour nous amener à progresser ensemble, mais qu'à un moment donné, il n'y en aura plus besoin. Il n'y en aura plus besoin. L'Église que nous formons, vous êtes d'accord qu'elle est faite d'êtres humains parfaitement imparfaits? Vous êtes d'accord avec moi? Dites, je ne suis pas toute seule à être parfaitement imparfaite, s'il vous plaît, soutenez-moi. Et Paul encore leur dit que les dons auxquels ils accordent tant d'importance disparaîtront. Ça sera fini, il n'y en aura plus. Les dons spirituels ont un statut temporaire. Et là, ces versets nous parlent d'avenir. Il faut avoir un regard vers l'avenir. Il faut avoir un regard vers le royaume de Dieu. Là où Paul veut nous amener, c'est vraiment ce regard vers l'avenir. Un jour, dans le nouveau ciel, la nouvelle terre, on sera parfait. Tout court. C'est pas bon ça ? On aura des corps glorifiés. On n'aura plus de bobos, on n'aura plus mal. Ça, c'est bon aussi. Et comment l'expliquer ? Par exemple, quand on décide de partir dans un endroit, on utilise ce qu'on appelle le GPS. D'accord ? On met notre position jusqu'à la destination. Et le GPS, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous donne la direction, tournez à droite, allez tout droit, prenez le rond-point, deuxième sortie. Par moment, il affiche les panneaux. Par moment même, il avertit, attention, petit radar, attention, levez le pied de la pédale. Et sur certaines applications, il avertit même quand il y a des véhicules de côté, quand il y a un animal écrasé, il avertit, c'est trop bien. Et quand on arrive à la destination, vous êtes d'accord avec moi, on n'a plus besoin du GPS. Et bien là, c'est pareil, les dons, à un moment donné, quand on arrivera à destination, quand on sera parfait, on n'en a plus besoin, parce qu'on est parfait, c'est ce qui est trop bon. Et on continue la lecture, 1 Corinthiens 13, 11, 12. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Et Paul la continue par donner une illustration personnelle pour expliquer qu'aujourd'hui, nous ne comprenons pas tout. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir Dieu face à face. Notre intelligence est limitée et c'est un peu cette représentation de « avant, j'étais un enfant ». Et quand on arrivera à maturité, à cette perfection, c'est quand on sera dans la présence de Dieu. Et Paul espère que le jour où Jésus reviendra nous chercher, ou reviendra les chercher, il sera délivré vraiment de toutes ces idées fausses ou de mauvaises compréhensions que nous pouvons vivre actuellement. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne percute pas, mais on comprendra plus tard. Et quand Paul la parle d'un miroir, ne vous imaginez pas le super beau miroir qu'on a actuellement. Rappelez-vous qu'on est dans les premiers siècles, là. Donc c'était un miroir de bronze. Je me suis imaginé ce que c'était un miroir de bronze. J'ai regardé un petit peu. Bah, j'étais un peu plus bronzée. Bon, j'aime bien, hein, mais c'était pas la réalité. Quand je me suis regardée dans le vrai miroir, j'ai dit, ah, t'as pas lit. Donc pour l'image de dire, bah oui, on voit pas vraiment la réalité, mais un jour on verra la vraie réalité. Et Paul fait remarquer qu'il y a une grande distance entre notre connaissance actuelle de Dieu et celle que nous aurons dans sa présence, dans la vie de résurrection. C'est tellement bon. J'arrive pas à imaginer. Je verrai. Et on termine par 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour est la plus grande de toutes les qualités humaines. L'amour est la plus grande de toutes les qualités. Et ça, c'est une vertu aussi qui est divine. Et là, Paul ne dit pas que c'est la seule qui va rester éternellement. C'est pas ce qu'il dit. Et je reprends une citation de Alfred Kuhn. La foi et l'espérance demeurent continuellement, mais en se transformant incessamment, l'une en vue, l'autre en possession. Il n'en est pas ainsi de la charité. L'amour ne voit, n'acquiert pas le divin, il l'est. Dieu ne croit pas, n'espère pas, mais il aime. L'amour appartient à son essence. Comme Dieu lui-même, il ne pourrait changer de nature qu'en s'altérant. L'amour est le but par rapport auquel les deux autres vertus ne sont que des moyens, et cette relation persiste en dedans de la perfection elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? La foi se transformera en vue. La foi. On croit des choses qu'on ne voit pas pour l'instant, pour le moment, mais qu'on va voir. Donc elle se transforme en vue. Et l'espérance, on espère avoir certaines choses. On espère avoir l'amour parfait, la patience au taquet, la joie tout le temps. L'espérance, on l'aura en possession, on le possédera. Mais l'amour demeure éternellement. L'amour dure toujours. L'amour n'a pas de fin. Je vais demander à l'équipe de monter, si elle veut bien. Et là, on a vu, nous avons vu que la voie par excellence pour exercer les dons spirituels, c'est l'amour. Que sans l'amour agapé, sans cet amour qui se donne, qui voit l'intérêt des autres, on est inutile et on ne sert à rien. L'amour. Et cet amour, ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi il est éternel. Et que quoi que tu fasses, où que tu ailles, Dieu t'aimera toujours. Mais nous, quoi qu'on fasse, quoi que les autres nous fassent, est-ce qu'on aura cet amour agapé, cet amour qui se donne, cet amour qui cherche l'intérêt de l'autre? Je ne sais pas si vous réalisez, souvent je donne l'image de la famille, parce que pour moi la famille est très importante. J'en parle tout le temps. Ma sœur, n'en parlons pas, j'en parle tous les jours. Mais parce qu'on est une famille en fait. Du moment où on accepte Dieu, du moment où on est accueilli par Dieu, il nous a adoptés. Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui lui ferait du bien? Qu'est-ce que je peux faire? Et on voit que quand on apporte, quand on se donne, quand on fait quelque chose, la personne est émerveillée, mais en fait ça fait plus de joie à celui qui donne que peut-être à celui qui reçoit. Ça fait tellement un épanouissement. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Jacques Brel, « Quand on n'a que l'amour ».« Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, aujourd'hui grand voyage ». La fin, les paroles de la fin, il dit « Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains amis le monde entier. Quand on n'a que l'amour, quand on a cet amour divin, on aura le monde entier. Le monde entier, pas pour nous, pas pour qu'il ne loue nous, pas pour qu'ils nous adorent nous, mais pour qu'ils adorent le Père, pour qu'ils participent, qu'ils fassent partie de cette famille. Alors qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour justement mettre en action cet amour agapé? Et je suis touchée, et je vais le citer. Un jour, je rentre dans le salon, j'étais chez mes parents, et je vois ma maman pleurer. Je ne supporte pas. Quand on touche à ma mère, à mon père, là, il faut que je demande à Dieu la maîtrise de soi parce que je suis capable, mais je vous le dis sincèrement, et franchement, ce n'est pas à mon honneur, je suis capable de fracasser la personne qui a fait du mal. Voilà. Et je dis, maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle me regarde, elle dit, ben, ma mère, elle m'a dit qu'elle me haïssait. Ma grand-mère, donc. Et là, je dis, c'est chaud, quoi. Je dis, bon, c'est bon, maman, arrête, ok, on t'aime bien, on est là, je la prends dans mes bras et tout ça. Et ma mère a continué, année après année, à son anniversaire, à l'appeler, à lui acheter des fleurs, à Noël. Et moi, je disais, maman, arrête. Arrête. Ma mère a continué, elle a continué. Et ma grand-mère, un jour, elle part à l'hôpital, elle vit ses derniers jours, elle est partie du Covid. On ne savait pas que c'était ses derniers jours. Et là, avant de partir, elle dit... « Ramenez-moi ma Bible et le livre que Ghislaine, donc Ghislaine c'est ma mère, m'a offert. » Et quelque part, je me dis, ben, « Seigneur, ces actes d'amour, alors que de l'autre côté, ma mère avait un mur, ont percuté et ont touché. » Il n'y a que l'amour qui a vraiment changé. Il n'y a que l'amour qui a touché mon cœur, l'amour de Dieu pour moi. Il n'y a que l'amour. Qu'est-ce qu'on peut mettre en action? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toucher l'autre, pour qu'il vienne à Dieu et qu'il fasse partie de la famille et qu'on soit tous ensemble un jour à se réjouir ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire là, les uns pour les autres, pour grandir, pour la ville de Strasbourg, pour nos familles inconverties, pour nos voisins? Et pour nos proches aussi, nos enfants, nos conjoints, notre famille. Est-ce qu'on juste peut prendre quelques secondes pour dire, ok, Seigneur, on parle de l'amour agapé. Qu'est-ce que je peux mettre en place à partir d'aujourd'hui? Seigneur, comme tu le sais bien imparfaitement, Seigneur, j'ai mis sur papier ce que tu as mis sur mon cœur, en étudiant ta parole, en regardant, en la lisant. Et Père, je te prie parce que je veux vivre cet amour agapé. Je te prie parce que on reconnaît qu'on est parfaitement imparfait. Et Père, je te prie vraiment pour qu'il y ait, Seigneur, des décisions qui soient prises. Seigneur mon Dieu, des engagements, des actions. Mais pour qu'on puisse prendre soin les uns des autres, pour qu'on soit, Seigneur, comme tu l'as été envers nous. On le saura bien imparfaitement, mais avec l'action de ton esprit, Seigneur, je sais que tu peux faire des miracles encore dans nos vies. Je sais que grâce à cet amour, des âmes, Seigneur, peuvent se tourner vers toi. Seigneur, je sais que des âmes seront guéries. Je sais, Seigneur mon Dieu, que des âmes seront délivrées, touchées, parce qu'il y aura ton amour. Alors agis puissamment dans nos vies. Aide-nous à aller de l'avant. Aide-nous, Seigneur, à regarder à l'autre. Et à voir ce qui, Seigneur, toucherait son cœur, ce qui lui ferait du bien, ce qui lui permettrait de grandir et évoluer. Je le demande dans le nom de Jésus pour la gloire de ton nom, Père. Amen.
Je vous invite à vous lever. On va reprendre un dernier chant. Il est exalté.
Le roi est au-dessus.
Voilà qu'on puisse garder cette invitation à rechercher, à poursuivre l'amour encore, à demander la grâce de Dieu dans nos relations, dans nos contacts avec les uns et les autres. On veut souhaiter un bon dimanche à chacun, chacune. On veut saluer aussi nos internautes. Bon dimanche à tous. Et pour ceux qui restent à l'épi, si vous avez été interpellé ce matin par un aspect